les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Agent, impresario, art média, vous connaissez. Éditeur, champ libre, vous connaissez également. Quand les choses allaient mal, il était d'une humeur délicieuse. Il, à savoir un homme dont on a peut-être plus en mémoire la fin tragique et les hypothèses et les rumeurs qui l'entouraient, que la vie professionnelle elle-même d'une grande richesse. Surpris par la nuit, rediffusion d'une émission consacrée à Gérard Lebovici, proposée pour la première fois sur France Culture le 18 février 2004.
Surpris par la nuit.
Enquête dans le show business après l'assassinat lundi soir à Paris dans le parking de l'avenue Foch du producteur de cinéma Gérard Lebovici, l'homme qui faisait les stars, l'ami de Belmondo, d'Yves Montand et de Catherine Deneuve. 4 balles de 22 longs rifles dans la tête, un travail de professionnel, qui et pourquoi.
Il est certain que Gérard Lebovici est au carrefour de plusieurs haines. Il y a la haine, la jalousie en tout cas des gens qu'il a supplantés dans le domaine professionnel du cinéma. Il y a la haine peut-être de l'institution policière à l'égard d'un homme qui est fasciné par des personnages comme Mesrine. Il y a donc beaucoup de haine autour de lui, mais aucune n'apparaît comme pouvant expliquer de manière décisive son assassinat.
Il est 18h30 ce soir-là quand le producteur quitte son bureau du 16e arrondissement. Il vient d'annuler un rendez-vous.
Il y a forcément, à partir d'un certain moment, un mystère, le Lebovici. Mais qui dit mystère, oui, un mystère, je ne peux pas vous révéler le mystère, ça se saurait. Les raisons pour lesquelles il a été assassiné. Il y a des hypothèses très différentes.
La personnalité de la victime complique la tâche des enquêteurs. Lebovici était un homme que l'on voyait beaucoup, mais qui se montrait peu.
On était au cours Simon ensemble. Et puis les années ont passé. Je sais que il avait repris un rôle de Michel Piccoli dans une pièce de Georges Arnaud.
Claude Berry.
Je l'ai revu à la fin des années 50. Je jouais une pièce de théâtre Chin Chin de François Billédou. Et un soir, il a débarqué au théâtre avec Michel Méritz, qui après a travaillé avec lui, Serge Rousseau. Et puis comme moi, je piétinais un petit peu comme comédien, j'avais beau jouer Chin Chin, mon père s'impatientait, il devait peut-être sentir qu'il allait mourir jeune. Très souvent, il me disait de faire l'impresario. Il disait, qu'est-ce qu'elle fait ta bonne femme? Elle montre des photos et elle passe à la caisse. Et en parlant comme ça, je leur ai un peu vendu l'histoire de mon père. Et à quelques temps de là, eh ben, j'ai appris que Gérard Lebovici montait une agence avec Michel Méritz.
Parce qu'on n'était pas loin de s'aimer quand même sur un certain plan. Et puis, ben, de toute façon, vous savez, vous vous appelez comme vous appelez, moi je m'appelle comme je m'appelle, c'est ça qui nous sépare. Ça s'émettra bien pour vous, mal pour moi.
Il n'y a pas cette réussite sans avoir un certain charisme. Il était très intelligent, il menait très bien ses affaires, il représentait à peu près 70% du chiffre d'affaires du cinéma français, enfin à travers ses acteurs et ses metteurs en scène.
Moi, je le trouvais en même temps très naïf, parce qu'on le montre toujours très... Il était enfantin, il s'amusait de... Bon, bel succès, le mettait en joie. Vraiment, il était absolument pas blasé. Il riait comme un enfant, quoi. Il y avait un côté enfantin qui était formidable, et qu'on ne voit pas, qu'on n'imagine pas, finalement.
Et le Gérard Lebovici de Champs Libres, je peux dire que je le connais pratiquement pas. Je peux... Il y a eu comme un rideau le jour où disons, il a été pris de passion pour l'édition et certainement un engagement politique quelque part.
Impresario, Gérard Lebovici fonde Art Média en 1969.
Fin 71 paraissent les premiers ouvrages de sa maison d'édition, Champ Libre. Il monte enfin, artiste, auteur, associé, les 3A, 3 ans avant sa mort. Le 5 mars 1984, à l'âge de 52 ans, Gérard Lebovici est assassiné dans sa voiture. Retour de commission rogatoire générale, 1991, non-lieu. Enquête. Car au-delà des rumeurs, plus ou moins avérées, se manifestent l'entreprise et l'emprise d'un mécène moderne qui ne cessa de se battre contre la sclérose de son époque. Gérard Lebovici, il est plus méritoire de découvrir le mystère dans la lumière que dans l'ombre. Une proposition de Benoît Bourreau, assistée de Guillaume Noué. Mise en onde, Angélique Thibault.
Je suis entré en janvier 52 au cours Simo et je crois que Gérard a été de 3 mois avant moi. Quoi.
Serge Rousseau.
Gérard avait 20 ans, moi j'avais 22 ans à l'époque. C'était un comédien tout à fait remarquable. Il est entré au conservatoire, là. Pour entrer au conservatoire, il jouait Auguste de Sidna, pour vous montrer que c'était un emploi très 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 fort. Et au cours, il était considéré comme un des meilleurs élèves du cours. Non, c'était quelqu'un pour qui, quelque part, les gens ne se posaient pas de questions en tant que comédien. Simplement, bon, il y a le problème du temps, il faut la patience, quoi. Et ça, je ne suis pas sûr que c'est une chose qu'il a fait réellement. Je crois aussi, peut-être, et ça, on n'en a jamais parlé, c'est que Gérard, donc, avait 20 ans. Sa mère était morte en déportation et son père est mort tout de suite, est mort de chagrin. Quand j'ai connu Gérard, il avait donc un tuteur qui était un oncle et il habitait dans l'appartement de ses parents, rue de la Trémoille, avec sa sœur. Donc je pense aussi, et ça, je ne suis pas sûr, qu'il a à un moment donné a fallu qu'il gagne sa vie aussi. Et comme son père lui avait laissé une petite affaire de poils de brosse, enfin qui étaient des petites industries qui se trouvent près de Beauvais, il a repris ça pour, je pense aussi pour gagner sa vie. Ça s'est mis à très 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 bien marcher parce que c'était un homme d'affaires remarquable aussi. Voilà. Souvent, quand je ratais mon train, tout ça, bon, j'allais coucher chez Gérard. Et lui, bon, le week-end, venait déjeuner chez mes parents. Malgré qu'il ait quitté le métier qui, pour moi, avait été terrible, parce que c'était la seule personne que je connaissais, enfin, si sinon, qui était dans le métier, tout au moins qui voulait le faire et avec qui j'avais des rapports aussi grands. Et un jour, Claude Berry, qui était aussi avec nous au cours Simon, m'appelle et je dis à Gérard, tu viens, il y a Claude Berry qui m'invite à venir voir la pièce, est-ce que tu veux venir avec moi? Gérard me dit oui. Et dans la salle, il y avait aussi quelqu'un qu'on avait connu au cours Simon, qui était Michel, qui s'appelait Mitz à l'époque, mais enfin qui est devenu Michel Méritz. Et à la fin de la présentation, Claude Berry, qui est toujours plein d'idées, qu'on avait 10 par jour, il dit, mais toi, Gérard, qui est un artiste, qui voulait être comédien, pourquoi les agents, parce qu'à l'époque, les comédiens se plaignent toujours des agents. Même maintenant, ça continue d'ailleurs. Mais il se dit, toi qui connais bien les comédiens, est-ce que tu voudrais pas ça serait bien que tu deviennes agent. Gérard dit, oui, faut que je réfléchisse, tout ça. Puis ils se sont reparlés, et un jour, ils ont pris la décision de créer une agence. Et les gens que Michel connaissait, qui à l'époque étaient inconnus, c'était Godard, c'était Truffaut, c'était Rivette, c'était toute la nouvelle vague. Et donc elle était au cœur de ça, et elle a eu cette chance extraordinaire. Elle a fait donc le film de Chabrol en tant que comédienne, qui était le beau Serge. Et à ce moment-là, je crois que c'était Philippe de Broca qui était assistant de Chabrol. Il préparait un film qui s'appelait Les Jeux de l'amour. Et Les Jeux de l'amour, il n'arrivait pas à trouver son personnage. Et un jour, elle lui dit, moi, je connais un comédien formidable qui serait exactement le personnage, c'est Jean-Pierre Cassel. Et Jean-Pierre a fait le rôle. Et dans les projections privées, ça avait autant de succès qu'à bout de souffle. Ça a été formidable. Et Gérard et Michel lui ont dit, mais est-ce que tu accepterais qu'on s'occupe de toi ? Jean-Pierre a dit, bah oui, j'accepte. Alors qu'il avait des propositions de tous les plus grands agents de l'époque, les agents en place, alors que là, c'était une agence qui débutait. Ce qui fait qu'avec Jean-Pierre Cassel, ils ont tout de suite eu un élément qui leur a permis d'aborder les producteurs. Et en l'espace de 10 ans, c'est là, moi, où je suis entré avec eux, parce que j'avais continué à être comédien pendant 10 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris l'appellation Art Média et que ça s'est installé rue Marbeuf. Voilà.
J'étais très jeune. J'avais... Je revenais du service militaire, en fait. Et j'étais très ami avec Françoise Arnoul, qui à l'époque était l'amie de Gérard Lebovici. Et
Jean-Louis Lévy.
Elle m'avait dit un jour, écoute, il faudrait que tu rencontres un mec absolument... étonnant, je pense que vous êtes fait pour vous rencontrer, pour travailler ensemble. Il s'appelle Gérard Lebovici. Eh ben oui, c'était vrai, ça a été immédiat. Il a tout de suite souhaité que je travaille pour lui. Et j'ai commencé par faire la comptabilité de Gérard Lebovici, qui commençait à devenir agent artistique, impresario. Et en même temps, pour pouvoir finir les fins de mois, Gérard Lebovici faisait commerce de crins et soies. C'est pour ça que on était des agents qui d'abord vendaient des brosses avant de nous occuper d'artistes, notamment d'acteurs, parce que le métier d'agent artistique d'impresario à cette époque était constitué essentiellement de la représentation d'acteurs. Et lui a été un novateur absolu, puisqu'il a compris avant tout le monde que pour pouvoir maîtriser, disons, le spectre artistique dans toute l'ampleur de sa création, il fallait représenter les auteurs, les metteurs en scène, et que les acteurs viendraient obligatoirement, puisque la source, il fallait la représenter au départ et non pas être à la merci des autres, ce qui... donnerait, c'était sa pensée, ce qui donnerait à l'agent artistique un pouvoir qu'il n'avait jamais eu. Ce qui fut le cas.
Alors il y avait Bernheim et Simura. Et puis il y avait aussi la William Morris, mais la William Morris a disparu. Donc Bernheim, il a voulu le reprendre parce qu'il y avait une organisation extraordinaire, il y avait un carnet d'adresses extraordinaire et tout. Donc il a repris Bernheim, qu'il a dû payer en plusieurs années. Et il a repris Simura à condition que Jean-Paul Belmondo, qui était chez Simura, accepte de venir. Jean-Paul a accepté. Et ça a été une rencontre formidable avec Gérard parce qu'ils se sont formidablement entendus. Et moi, j'ai dit à Gérard, bon, je veux bien travailler avec vous. Mais Gérard et Jean-Louis Lévy m'ont laissé faire ce que je voulais. Quoi. Voilà. Et puis, je suis tombé à un moment donné, effectivement, où il y avait un changement de génération qui arrivait. De Vert, Adjani, Depardieu, Miu Miu... Coluche, dont je me suis occupé un peu au début, avant qu'il fasse vraiment du musical, Dussolier, Villeray, Balmer, Nathalie Baye. Il y a aussi, donc il y avait Truffaut, il y avait René. La rencontre de Gérard avec François Truffaut. Bon, je pense qu'il l'avait rencontré quelquefois, il s'était peut-être serré la main, mais enfin, il ne le connaissait pas. Et moi, je me suis marié en 1961. Je suis donc marié avec Marie Dubois. Et le témoin de mariage de Marie, c'était François Truffaut, parce qu'il s'était connu quand elle avait fait Tirer sur le pianiste. Et Gérard était mon témoin.
J'ai dû le rencontrer dans le milieu des années 60. Enfin, et on avait déjà plaisanter ensemble parce que il s'était amusé à me dire que je me débrouillais assez mal dans le cinéma et sous-entendu et avec un sourire en coin de me dire que si je rejoignais son équipe, ben j'aurais beaucoup plus de possibilités.
Alain Resnais.
Ensuite, alors là, je peux dire que Gérard Lebovici a eu une influence énorme sur mon destin, puisque j'avais fait un film qui est sorti en 1968 et qui avait rencontré assez peu de spectateurs et un assez mauvais accueil de la presse. Donc, je me suis trouvé en 69 sans travail, en 70 sans travail, en 71 sans travail, et que j'ai commencé à croire que c'était vraiment terminé, quoi. Enfin, que je ne savais pas où j'allais aller, mais j'étais dans une situation totalement bloquée professionnellement, quoi. Plus aucune offre de producteur, rien. C'est là où Gérard Lebovici m'a refait des propositions et que, en effet, il est arrivé à m'imposer, on peut dire, comme metteur en scène sur un projet qu'il avait avec Ariane Film et qui s'est appelé Stavisky, trois points, oui. Et ce qui m'a permis donc de redémarrer dans le métier, quoi. Mais je veux dire que sans lui, peut-être que j'aurais complètement été obligé d'arrêter de faire du cinéma. Pourquoi avait-il décidé, parce que je parle bien d'une décision, que je devais faire des films? Bon, et puis là, il n'y avait pas à discuter. Si on lui répondait, mais les films de Resnais sont très difficiles à comprendre pour les spectateurs, il a un public très restreint et tout ça, il balayait ça de la main et d'un grommelot en même temps, et un peu bourru comme ça. Et puis, non, c'était décidé et... je veux dire que le résultat soit une réussite ou un échec importait peu si le film lui plaisait, oui. Mais évidemment, il s'amusait aussi beaucoup. Je me souviens que pour un film de Jean Gruau, qui s'appelait « Mon oncle d'Amérique », je lui avais dit « Bon, ben alors pour les deux héros, j'ai choisi Nicole Garcia et Roger Pierre. » Et là, il était... Enfin, il est vraiment parti d'un grand éclat de rire. Et il a été déclaré un peu au bureau et à ses collaborateurs. Vous vous rendez compte? Je lui donne Delon et Adjani et il me répond Roger Pierre et Nicole Garcia. Qu'est-ce que je peux faire? Mais il a immédiatement pris contact et m'a soutenu dans ce choix après. Et... j'avais autant envie de le rencontrer pour parler livre, spectacle, amitié, que cinéma, oui, bien sûr, et que pour parler travail. C'était favoriser des films. Peut-être que, oui, il aurait été un producteur, un peu comme certains grands producteurs américains, quoi. Les Elnick, les Sukor, les Salberg, enfin, qui participaient directement au film, quoi. D'ailleurs, on peut dire que être agent ou impresario l'a amusé pendant 3 ou 4 ans, mais que ensuite ce qui l'intéressait, c'était d'éditer des auteurs connus ou inconnus, vivants ou disparus d'ailleurs, et que sa maison d'édition Champ Libre, c'était ce qui lui importait le plus. Alors il profitait, à mon avis, d'Artmedia pour pouvoir perdre tout l'argent nécessaire dans l'édition de beaux livres ou de textes qu'il estimait très importants, quoi, comme ceux de Simon Lès, par exemple.
Mais si vous voulez bien, mettons un peu d'ordre dans nos idées. À qui nous adressons-nous? À l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant? Le petit de l'homme. Et qu'est-ce que l'homme? Excellente question.
Est-il bon? Est-il méchant?
Question idiote.
Nous sommes à des années-lumière de notre axe de travail.
Very good.
En effet.
Il faut donc repartir à zéro.
Vous l'avez déjà dit.
Eh bien, je le répète.
Ah, oh, bon, si on allait se coucher.
L'homme, ce que nous nommons l'homme. L'homme civilisé, c'est l'exploiteur exploité. Supprimez l'exploitation et vous supprimez l'homme.
Je suis le gérant d'Artmedia, Bertrand de l'Abbé donc. J'ai l'honneur d'avoir succédé à Gérard Lebovici. Je crois que j'ai intégré l'équipe Artmedia en 73, donc ça devait être 73-72, quelque chose comme ça. Hein. Je suis devenu à l'époque, je crois, l'agent de Martin Lamotte, Dominique Lavanant, puis de Catherine Deneuve. C'est d'ailleurs à cette époque-là où concluait mon engagement qu'un jour, on avait une collaboratrice passer en courant avec du sang dans le visage, sur la tête, et on était hold-upé par un gangster célèbre de l'époque qui s'appelait Villoquet. Et d'un seul coup, avec Gérard Lebovici, on s'est retrouvé en face de Villoquet avec un pistolet. Il nous a fait pas les cons, sinon je tire. À un moment, il y a eu un cri. Il s'est tourné, la balle est partie. Et la balle est allée dans le ventre d'un autre gangster. Et à ce moment-là, ils sont partis en vitesse, puisqu'ils avaient un blessé grave qui a été arrêté par la police. Et après, c'est une épreuve, parce qu'on est très traumatisé pendant quelques heures, alors qu'on n'a rien eu et tout. C'est passé près, quoi, voilà. Très près. Et au fur et à mesure, donc, j'ai construit Artmedia Variété. Et puis après, sans doute contaminé par tous les autres agents que je rencontrais, je me suis intéressé au cinéma. Et à partir de là, j'ai mené les deux activités de front. Donc depuis avril 90, j'ai l'honneur de diriger seul Artmedia. Et aujourd'hui, donc, Artmedia, malgré les créations de d'autres agences et tout, reste... il en aurait été heureux, leader plus que jamais. Il m'avait demandé de rencontrer Renaud, et à l'époque, il avait beaucoup d'admiration pour le combat de Mesrine. Et à un moment, il a demandé à Renaud d'écrire une chanson sur Mesrine, et Renaud ne l'a pas fait immédiatement. Et j'avais interrogé Renaud là-dessus en me disant je ne peux pas faire une chanson sur commande, j'ai jamais fait une chanson sur commande, mais c'est une chose qui me trotte dans la tête, mais je ne rendrai pas une copie à Gérard Lebovici comme ça du jour au lendemain parce qu'il me le demande. Il a pris ombrage de cette attitude de Renaud, lui a écrit des lettres que vous pouvez retrouver donc dans la correspondance de Gérard Lebovici. Entre temps d'ailleurs, il avait écrit une chanson en pensant au sujet que voulait lui imposer Gérard, qui s'appelle « Où ai-je mis mon flingue ?» ou « Le nom, j'ai peur ou une chose comme ça. » Et c'est dire combien Gérard n'a jamais, je crois qu'il n'a jamais pris une décision en fonction de son intérêt. C'était pour d'autres raisons que celle-là.
Ah oui, le gardien, on est
très
attentif.
Oui, oui.
Attends, vous pouvez sortir et tout, c'était foutu là.
Bon, qu'est-ce que vous prenez? Asseyez-vous.
Ah, allez, une bière belge. Parce que j'ai vu qu'il y avait les Belges en face. Je vais boire de la Belgique. Hein. Donc, si, si, j'ai de la bière belge. Non, j'ai de la belge.
Bœuf.
Bon, ben, là, c'est bon.
Alors, les Bovici, c'est très simple, c'est l'intermédiaire par le, on peut dire, le couple théorique ou le couple stratégique, Raphaël Sorin, Gérard Guégan. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Gérard Les Bovici. Guégan, qui était copain, qui avait rencontré déjà Les Bovici, et c'est Guégan Sorin qui crée l'édition Champ Libre. Ah. Et un an après, ou un an et demi après, Raphaël me dit, écoute, qu'est-ce qu'on préfère comme projet? Alors, ben, Nakoff propose une collection, et moi, je propose ma collection Projectoire.
Michel Giroux.
Pour ce qui me concerne, c'est-à-dire les 8 ans, on peut dire, hein, puisque c'est 72, 80, donc les 8 ans pour éditer 5 bouquins concernant donc Dada. Et pas du tout des livres, et ça, c'est, j'aimais bien ça chez les Beaux, chez Debord, pas des livres sur Dada, le énième livre sur Dada, que font toujours les gens de l'université des thèses, mais publier les documents. Après, on fera les livres. Il faut d'abord donner aux nouvelles générations ce que moi, je n'ai pas eu, ce que nous, on n'a pas eu. Ça, c'est capital. Comme ça, on dira moins de conneries. Hein, et puis, c'était publié aussi, non seulement Dada Berlin, le livre de Berrius, mais publié l'ensemble des écrits allemands de Dadazoff, le fondateur Dada Berlin, donc Raoul Haussmann. J'avais déjà publié donc le Mac Dada. Hein, et du côté français, donc les écrits d'Ada avec Bégaud, donc de Raymond de Seigne. Et par Ornella Volta, les écrits complets de Satie. Les avant-gardes, Dada, à la limite futuriste, on aurait pu faire, constructiviste, mais surtout Dada constructiviste. Ça, c'était la vision de Debord. Bon, c'est pas la vision des Bovici. Les Bovici est un type formidable qui a su faire de l'argent, qui était un acteur, qui n'a pas réussi à être acteur, il est devenu producteur. Et il a libéré quand même le cinéma, les réalisateurs et les acteurs. De l'esclavage. C'est-à-dire, leur a appris à devenir autonome. Ça, c'est quand même formidable. Mais, ce n'était pas lui la tête.
Gérard Le Bovici était très ami avec Georges Kegeman. Et je crois que Kegeman, à l'époque, était secrétaire de Mendès France. Et donc, c'était en 67, ça devait être en mars, quelque chose comme ça. Et Kegeman demande à Gérard, il dit, bon, tu pourrais pas organiser un gala de music-hall? Et Gérard, le music-hall, à l'époque, il connaissait pas du tout, mais bon. Et il a réussi à réunir Jacques Brel, Serge Reggiani, qui avait pas encore vraiment commencé à chanter. Il y avait Marie Dubois qui présentait les numéros. Et d'ailleurs, c'est un souvenir terrible parce que c'était quand même une réunion politique. Et quand Marie est arrivée sur scène, c'était à poil.
C'est du débat démocratique. Ça prend le débat. Les amis.
Bon, on avait un standard qui était bloqué tous les jours, tellement nous avions d'appels pour organiser Sly, le film de Dobroka, et celui de Rapneau, et celui de Costa-Gavras, et celui de Claude Zidi, et celui d'Henri Verneuil, et celui de, et celui de François Truffaut, et ça, bon, bref. Et puis arrive mai 68, et du jour au lendemain,
Jean-Louis Lévy,
silence. Silence complet. Plus un coup de téléphone. Bon, on essaie de prendre des contacts, on n'arrive à joindre personne. Et on se retrouve subitement dans une situation où, enfin, qui faisait absolument non seulement sourire, mais jubiler Gérard Le Bovici, alors qu'on courait peut-être à notre perte, puisque plus de chiffre d'affaires, plus de respect des contrats, tout était arrêté. Et on était là le matin, on se regardait, on disait, bon, ben voilà, encore une journée, sans rien. Mais Gérard, toujours détendu, décontracté. C'était sa particularité, sa singularité d'ailleurs, c'est que quand les choses étaient difficiles et allaient mal, il était d'une humeur extraordinaire. Et il faisait plutôt la tronche quand les choses allaient bien. Et là, il faisait pas du tout la tronche, il était ravi, donc c'est que les choses allaient pas très bien. Et puis arrive fin mai, et bon, on vient au bureau et là, le standard a explosé. Et l'année 68 a été, au point de vue des résultats, peut-être la meilleure année que nous ayons connue.
La tête théorique, c'est Debord. Donc là, il y a un problème un jour ou l'autre. Et moi, j'ai jamais voulu rencontrer Debord avec les Bovici. Non, parce que je sais très bien, c'était pas la peine, ça sert à rien. Temps perdu. Je connais les Thaïs d'abord, on sait ce qu'il a fait. Donc, voilà, peut-être que c'était une idiotie. Mais de toute façon, j'étais embarqué avec Sorin et Guégan, et qui, eux, vraiment, ont fait champ libre. Parce que sans Sorin et Guégan, je ne dis pas qu'au début, il y avait Debord, hein, mais je dis que Debord était là après. Et quand le crack a eu lieu, Debord était certainement là très fort. Et après, c'était la bataille entre quand même le clan Sorin Guégan et les Bovici. Les Bovici disaient à l'argent, et Sorin Guégan disait, nous apportons les idées. Mais la position théorique, disons, on peut dire anarchisante ou anarchique de Guégan Sorin, n'était pas celle de Debord. Il y avait là quand même des frictions. Ah. Bon. Il y a eu le clash et ils ont fait le Sagittaire. Et à ce moment-là, ils m'ont demandé, moi, de venir au Sagittaire. Oh là là, entre. Les Bovici, qui a l'argent, eux, et je vais faire partie de du groupuscule, j'ai pas envie, Nakoff non plus, je dis on reste là. Donc on va les considérer comme des traîtres.
Voilà, qu'est-ce qui se passe encore? Cet enfant finira par mourir ici. On s'occupe de lui pour l'examiner, pour l'exhiber comme un monstre.
Écoutez-moi, c'est une table. Ce garçon est un plaisir à tous les enfants que nous avons ici. Il est au-dessous de l'animal.
La question n'est pas là. Ou plutôt, si même un animal, on s'occupe de lui, on essaie d'éduquer.
Vous croyez qu'il est capable d'éducation?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense seulement qu'il était inutile de l'arracher la vie qu'il menait en forêt, si c'est pour l'enfermer ici, comme pour le punir d'avoir déçu la curiosité des Parisiens, parce que finalement, c'est ça qu'on lui reproche.
Écoutez-moi, pour moi, c'est un idiot.
Si vous voulez raconter un petit peu la vie de Gérard Lebovici, je crois qu'il faut bien savoir que Gérard Lebovici était un homme, je ne sais pas... je ne sais plus dans quel film américain avec Robert Taylor, il y a la femme de la nuit et la femme du jour. Eh bien, on pourrait dire que Gérard Lebovici était un peu cet homme-là. Il avait deux vies. Il avait la vie avec les acteurs, les créateurs, qui était la vie de Payette. Et puis, il avait une vie plus secrète, qui était certainement beaucoup plus engagée et beaucoup plus, en tous les cas, très mystérieuse. Ben, je suis Martine Baraquet et on va dire plus rapidement, je suis monteuse de films. Et j'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène, des plus anciens, donc peut-être pas très connus aujourd'hui, comme Jean-Pierre Melville, Louis Malle, c'est François Truffaut beaucoup, quelques Américains comme Jerry Schatzberg et j'ai fait mes débuts comme chef monteuse. Le deuxième film que j'ai fait comme chef monteuse est avec plus un philosophe qu'un cinéaste, puisque c'était avec Guy Debord. Les films de François, j'étais monteuse son, je faisais l'assistana, le montage son. Je n'ai commencé à monter les films de François qu'en 1976 avec L'homme qui aimait les femmes. Le temps pour moi est marqué par les films, donc je sais que c'est pendant le montage de La Nuit américaine où Suzanne Schiffman, qui avait déjà travaillé, qui était en train de travailler sur une recherche de documents pour la Société du spectacle, m'a dit « ce serait bien que tu travailles avec Guy Debord, est-ce que ça t'intéresserait ? Je ne sais pas, je crois que... Gérard Lebovici a l'intention de t'en parler. » Donc voilà, effectivement, quelques semaines après, j'ai eu un appel de la secrétaire de Gérard Lebovici pour rencontrer Gérard Lebovici, qui allait me parler d'un projet qui était très mystérieux. Alors évidemment, le rendez-vous est donné le soir après la journée après le travail, de façon à ce que plus personne ne soit dans ses bureaux. C'était comme un rendez-vous d'amour ou un rendez-vous en tous les cas secret. Je ne devais en parler à personne. C'est d'abord lui qui irait au rendez-vous avec Guy Debord et qui ensuite me ferait part que moi je peux venir, je peux suivre. Bon, voilà, c'était, vous savez, c'est sous les Condés, c'était souvent comme ça. Hein. Eh bien, on était un peu dans cette atmosphère. Donc, on a pris rendez-vous pour une première projection. Et là, à cette projection, on a regardé, je ne sais pas, on a regardé pendant 2 heures que des documents d'actualité. Alors, ces documents d'actualité, pour ceux qui n'ont pas vu la Société du spectacle, c'est un petit peu abstrait comme définition, mais ça allait de Salin Gros, en passant par Marilyn Monroe chantant devant le président, en passant devant le dernier défilé de Chanel, la guerre de 40, les premières vaches qu'on élevait en batterie. Enfin, c'était monstrueux. Il fallait que je trouve ces documents, ces films, mais sans dire pour qui c'était. Parce que ils n'avaient pas l'intention, on ne pouvait pas s'offrir le luxe ni le temps de demander les droits pour avoir la projection et ensuite éventuellement de faire des fil à fil et de faire des contre-types et pour en avoir la jouissance. Donc, moi, j'inventais des histoires auprès des distributeurs. Je disais que je travaillais avec un réalisateur qui était en Italie ou qui était, selon les jours, en Espagne ou en voyage en province et j'avais besoin de louer une copie. Et c'est vrai que, avec la réputation que j'avais déjà dans le métier et la réputation des films du Carrosse et de Gérard Lebovici, Gérard Lebovici était dans l'ombre. Personne ne savait que c'était Gérard Lebovici qui produisait. Il n'y avait que des très peu de personnes, quoi. Suzanne Schiffman, moi et les films du Carrosse. Mais sinon, personne ne le savait. Il y avait aussi ce que Gérard Lebovici avait préparé. C'était si on avait, lors de la projection en public de ce film, des procès pour citation, je veux dire, pour montrer des extraits de films. Il avait l'intention de faire une procédure avec Kejman pour droit de citation comme en littérature, les mêmes droits. Le film date de 73, ouais. Donc tout s'est fait en même temps dans la foulée. Je venais de me séparer de mon premier compagnon qui était un homme très cultivé, artiste peintre et très vivant très en marge et qui était très très impressionné et très intéressé par le mouvement des internationales situationnistes et qui à maintes reprises avait essayer, avec moi à ses côtés, de rentrer en contact avec Guy Debord. Et pour ce faire, on allait rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, puisque c'était le siège de la revue, et on tombait toujours devant un cafetier qui nous répondait « Ah non, 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 c'est pas ici. Guy Debord, non, on ne connaît pas. » Bon. Et bien longtemps après, quand la confiance est intervenue entre nous et que l'après-midi, quand il était fatigué, on s'arrêtait, on allait boire une bière au bord de la Marne, dans un petit bistrot, puisqu'on montait au studio de Joinville à l'époque et qu'ils étaient situés au bord de la Marne. Et là, un beau jour, je lui ai dit que j'aimerais bien organiser un dîner avec mon ex-compagnon et lui. Alors, il était très intrigué parce qu'il disait « Ah bon ?» Ah bon, votre ex-compagnon, Martine ? Je dis, pour moi, vous êtes une toute petite jeune fille. Le dîner a eu lieu et Guy a ri comme un fou. Et il a expliqué pourquoi jamais ils n'ont plus se rencontrer. Parce que le cafetier disait, Guy Debord, vous dites ? Ah, attendez, non, non. Alors lui, Guy Debord, regardait vers la personne qui le cherchait. Et selon Selon la tête de la personne, il faisait un signe positif ou négatif. Et en l'occurrence, pour mon pauvre compagnon, ça a toujours été non. Quand j'ai rencontré Guy Debord, il était très curieux de Gérard, très curieux de François Truffaut, mais un petit peu comme on l'est, quoi, comme ça. Hein, pas... Oui, il était très intrigué par Gérard, Guy, puisqu'il disait « Je sais qu'il a commencé en vendant des brosses à dents, en faisant du porte-à-porte. » Et il était très intrigué de ça. C'est tout ce que... Mais c'est presque une histoire d'amour avec entre Gérard Lebovici et Guy Debord, parce que en général un producteur va faire des folies pour une actrice. Là, c'est pour un auteur, et quel auteur, quel philosophe. Mais aller jusqu'à produire, acheter des salles de cinéma. Et ne sortir que ces films-là, c'est pire qu'une... C'est la danseuse la plus chère au monde.